France Musique.
Musique et moi.
Nicolas Vaude.
Priscille Lafitte. France Musique.
J'ai vu, pendant toute ma vie, sans en accepter un seul, les hommes aux épaules étroites faire des actes stupides et nombreux, abrutir leurs semblables et pervertir les âmes par tous les moyens. Ils appellent les motifs de leurs actions la gloire. En voyant ce spectacle, j'ai voulu rire comme les autres, mais cela, étrange imitation, était impossible. J'ai pris un canif dont la lame avait un tranchant acéré et je me suis fendu les chairs aux endroits où se réunissent les lèvres. Un instant, je crus mon but atteint. Je regardais dans un miroir cette bouche meurtrie par ma propre volonté. C'était une erreur. Le sang, qui coulait avec abondance des deux blessures, empêchait d'ailleurs de distinguer si c'était là vraiment le rire des autres. Mais après quelques instants de comparaison, je vis bien que mon rire ne ressemblait pas à celui des humains. C'est-à-dire que je ne riais pas. J'ai vu les hommes à la tête laide et aux yeux terribles enfoncés dans l'orbite obscure, surpasser la dureté du roc, la rigidité d'acier fondu, la cruauté du requin, l'insolence de la jeunesse, la fureur insensée des criminels, les comédiens les plus extraordinaires, la puissance de caractère des prêtres et les êtres les plus cachés au dehors, les plus froids des mondes et du ciel, lasser les moralistes à découvrir leur cœur et faire retomber sur eux la colère implacable d'en haut. Alors les mers soulèvent leurs eaux, engloutissent dans leurs abîmes les planches, les ouragans, les tremblements de terre renversent les maisons, la peste, les maladies diverses déciment les familles priantes, mais les hommes ne s'en aperçoivent pas. Je les ai vus aussi rougissants, pâlissant de honte pour leur conduite sur cette terre. Rarement. Tempête, sœur des ouragans, firmament bleuâtre, dont je n'admets pas la beauté, mère hypocrite, image de mon cœur, terre au sein mystérieux, habitant des sphères, univers entier, Dieu qui l'a créé avec magnificence. Montre-moi un homme qui soit bon, mais que ta grâce décuple mes forces naturelles. Car au spectacle de ce monstre, je puis mourir d'étonnement. On meurt à moins.
Thank you.
Faut-il avoir un tempérament prime sautier rêveur pour prêter sa voix à Mozart? Faut-il une âme aventureuse pour aimer dénicher les raretés baroques autant que les sonates d'Isaïe? Ou avoir des accès de mélancolie, des moments où on se place hors du monde pour aimer les chants de Maldoror du comte de Lautré à Mont. Bonjour Nicolas Vaud.
Bonjour.
Et soyez le bienvenu dans Musique et moi.
Merci.
Vous êtes un comédien aux facettes multiples, un comédien mélomane, ce qu'on va découvrir ce matin. Molière de la Révélation théâtrale en 1998, aimant ses classiques, le misanthrope comme le neveu de Rameau, mais aussi créateur de plusieurs pièces de Florian Zeller. Vous nous parlerez peut-être de cette collaboration un peu plus tard avec cet auteur français qui vient de briller aux Oscars. Et puis, nous vous entendons en ce moment sur France Musique dans la série de podcasts « Le journal intime de Mozart ». Vous êtes la voix du compositeur. Alors, vous avez amené un texte avec vous, un texte de Lautré à Mont. C'est un texte que vous travaillez en ce moment, Nicolas Vaud ?
Oui, c'est un texte que, en fait, nous préparons un spectacle poétique et... Enfin, c'est un rêve que j'ai depuis très longtemps avec des textes de Lautré à Mont, de La Forgue, de Rimbaud, de Cocteau. Il y a le menteur de Cocteau, il y a un texte de Beckett. Et c'est avec Jean-Philippe Audoly, qui est un merveilleux violoniste, qui était le premier violon du quatuor Ludwig, et mis en scène par François Martouret. C'est un travail qui a débuté... en avril dernier et qui est absolument passionnant parce que François Martouret qui est qui est le Timon d'Athènes de Peter Brook et puis un très très grand acteur, c'est quelqu'un qui avec qui j'avais envie de travailler depuis très longtemps et c'est un travail absolument passionnant autour de la poésie. Moi j'aime énormément la poésie et je rêvais de faire quelque chose avec la poésie et la musique depuis nombreuses années.
Vous voulez entremêler ces textes de
musique,
c'est ça ?
Oui, parce que je trouve que la poésie, si vous voulez, procure des sensations incroyables très rapidement et très spontanément et elle nous rassemble tous. C'est-à-dire que tout le monde a envie ou a eu envie ou a appris, bon, à l'école, mais pas nécessairement à l'école, de la poésie, des grands textes. Et puis, c'est une façon de se rapprocher de la musique, je crois aussi. Et encore une fois, c'est cette chose qui est sans explication aussi dans la poésie. Enfin, moi, ce sont des textes qui me hantent depuis très longtemps.
Et il y aura dans ce spectacle donc les sonates, plusieurs sonates pour violon seul de Jeanne Esaïe. Et je trouve que ce texte de Lautré à Mont fait écho assez joliment avec cette deuxième sonate pour violon seul d'Esaïe et sa référence au Dies Irae. On est saisi par le même grincement et à ce jeu avec l'effroi qu'on entend dans ce face-à-face entre les mots de Lautré à Mont et le violon de Laurent Corsia. Et c'est d'autant plus fascinant que cette sonate d'Isaïe est dédiée à votre arrière-grand-père, Jacques Thibault.
Oui, voilà.
Le violoniste Jacques Thibault, celui qui a donné son nom au concours Long Thibault.
Ouais, Jacques Thibault était donc mon arrière-grand-père et il était l'élève, enfin, il a été un élève d'Isaïe, il aimait énormément Isaïe.
Ami aussi, oui.
Et très ami, et il lui a dédié cette sonate, mais il a aussi dédié une sonate à Kreisler, à Enesco, à Zighetti aussi. Ouais. Voilà, et c'est une sonate que j'ai souvent écoutée. Jean-Philippe la joue dans le spectacle il la joue merveilleusement. J'aime énormément Laurent Corsia aussi, donc ça tombe bien, parce que je savais qu'il y avait ce disque avec Laurent Corsia, que j'apprécie aussi beaucoup. Et voilà.
Et Jacques Thibault, donc votre arrière-grand-père, a connu une très belle carrière de violoniste, mais aussi des jolis coups du destin.
Thank you.
Je fus invité à jouer dans un petit concert à Nice, et c'est là que se produisit l'événement qui devait décider de ma jeune carrière de voyageur.
Ah oui ?
Après le concert, je vis s'approcher de moi un élégant vieillard à tête de patriarche qui me dit avec un fort accent italien « Aimeriez-vous jouer en Italie ?»« Oui, lui répondis-je, mais je ne vois pas comment je pourrais le faire. Eh bien, moi, je suis un peu sérieux et je m'en charge. Mais il faudrait, pour votre lancement, avoir d'abord joué à Berlin. Ah. La critique de Berlin a une grande importance chez nous au point de vue musical.
Oui.
Mais, répondis-je, comment voulez-vous que je joue à Berlin ? Donner un concert coûte très cher, et ce n'est pas avec les 300 francs que je gagne actuellement par mois que je puis envisager de tels frais. Je
comprends.
Eh bien, jeune homme, je vais vous le faire pour vous. Je vais vous payer ce concert, et même avec un orchestre.
Oh.
Et M. Costa engagea en effet un orchestre pour m'accompagner. Et quel orchestre ? Tout simplement la Société Philharmonique de Berlin.
Oh, par exemple. Mais tout le monde a dû se demander là-bas qui vous pouviez bien être pour justifier un tel événement.
En effet, les musiciens de la Philharmonique me reçurent avec quelque défiance. Ils devaient penser, quel est ce jeune intrus à qui il ne faut rien moins que l'orchestre philharmonique pour l'accompagner lors de son premier concert.
Quel âge aviez-vous exactement ?
18 ans, tout juste.
Oh, en effet. Mais après la répétition ?
Eh bien, dès que j'eus commencé à jouer, ils furent plus aimables.
Ah, parbleu.
Et à la fin de la répétition, ils étaient devenus tout à fait charmants.
Tiens. Et ce concert, comment se passa-t-il ?
On n'avait pas grand espoir. Il n'y avait pas un billet de vendu.
Oh.
On avait lancé 1800 invitations.
Oh oui, mais les invitations, là-dessus, il en est arrivé combien ?
20, à peu près.
Oh.
Et dans une salle immense.
Oh. Et vous avez pu jouer quand même ?
Bah, cette grande salle vide était tellement triste que je fus obligé de tourner le dos aux spectateurs pour commencer mon exécution. Et je jouais pour les musiciens de l'orchestre.
Oh, par exemple.
Je n'avais pas achevé mon premier morceau quand un brouhaha indescriptible se produisit aux portes qui s'ouvrirent.
Tiens.
Une foule envahit alors la salle. Des hommes en habit, des femmes en toilette du soir se bousculaient pour entrer. À la stupéfaction de tous, et à la mienne en particulier, la salle vide, un instant plus tôt, s'était remplie comme par miracle. Il y avait même des gens debout.
Mais comment est-ce possible, par exemple ?
Sans chercher à comprendre, nous recommençâmes à jouer. L'auditoire me fit un magnifique succès que je n'oublierai jamais de ma vie. Les spectateurs venaient me féliciter.
Oui.
On me demandait des autographes. Je croyais rêver. Quand un petit vieillard à lunettes qui tournait autour de moi depuis un moment s'approcha et me dit, en excellent français malgré un léger accent allemand, « Vous êtes né sous une bonne étoile, jeune homme. »
C'était un diseur de bonne aventure.
Non, bien mieux que cela. C'était la merveilleuse aventure elle-même. Le petit homme était un impresario illustre,
oh.
Le premier du monde,
oh.
Et terriblement difficile. Il ne consentait à s'occuper personnellement que de quelques artistes, pas plus.
Et vous alliez être parmi ceux-là ?
En effet. Il me dit évidemment, artistiquement, vous m'intéressez beaucoup, mais ce qui m'intéresse plus encore en vous, c'est votre étoile.
Ah.
Et devant mon étonnement grandissant, il s'expliqua. Dans l'immeuble qui abritait la salle Beethoven, où mon concert avait été donné, se trouvait une autre salle, la salle philharmonique. Ce même soir, Un illustre violoniste au sommet de sa gloire devait s'y faire entendre et, bien entendu, toutes les places étaient retenues.
Ah, bien sûr.
Or, au moment de commencer son concert, cet illustre violoniste qui n'était plus jeune eut une syncope.
Oh.
Et son médecin lui interdit formellement de jouer. Et le concert n'eut pas lieu.
Ah.
Le public dut s'en aller, désolé de ne pas entendre le grand maître.
Mais comment cela a-t-il rempli votre salle avec...
Eh bien, pendant ce temps, les éléments s'étaient déchaînés au dehors. Un ouragan de neige s'était abattu sur Berlin. Plus d'omnibus, plus de fiacres. Les gens ne pouvaient absolument pas se risquer dans les rues et ne savaient que faire. Quelques-uns s'interrogeaient. Mais il y a un autre concert à la salle Beethoven, si nous y allions pour nous abriter en même temps.
Ah, oh, je comprends.
Et c'est ainsi que je jouais devant une salle pleine.
Ah.
À dater de ce jour, cet impresario illustre me prit sous sa protection.
Oui, oui.
J'avais dû le succès de mes débuts à un heureux hasard.
Symphonie espagnole en ré mineur d'Édouard Lalo par Jacques Thibault au violon, votre arrière-grand-père. Il est accompagné de l'orchestre radio-symphonique dirigé par Jean Martinon. Vous connaissiez cette anecdote, si, Nicolas Wood?
Alors, je vous remercie parce que je ne l'avais jamais entendu, lui. On m'a raconté l'anecdote, c'est-à-dire on m'a raconté la chance, le hasard de... La chance qu'il a eue à Berlin, effectivement. Mais c'est là, très c'est... émouvant à entendre, parce que non, je ne connaissais pas le...
Cet archive-là, en 1944,
oui, avec une archive, avec Béatrice Dussan, en plus, qui a interviewé. Bon, voilà, mais c'est amusant, c'est très... La symphonie espagnole, j'avais demandé à Noël un appareil pour enregistrer un enregistreur à cassette. Et un jour, ma mère, qui me disait souvent que la symphonie espagnole était son cheval de bataille, me dit « Oh, il y a un concert avec grand-papa qui va demain sur France Culture. » France Culture, pas France Musique. France Culture. Mes parents n'avaient pas la télévision. Ils n'avaient, et c'est une chance d'ailleurs, ils avaient la radio. Donc moi, j'ai été élevé à la radio. Et j'avais comme mission d'enregistrer la symphonie espagnole. Donc évidemment... ça m'émeut beaucoup parce que je me revois avec le petit appareil essayer de capter le meilleur son possible pour que j'étais très fier en plus parce que j'avais demandé cet appareil parce que déjà j'adorais un appareil à cassette parce que mes parents donc n'avaient pas la télévision mais ils avaient un énorme appareil vous savez c'est un électrophone avec des baffles c'était pas encore des baffles enfin c'était tout ça était un peu dans le même meuble et moi je n'avais pas encore d'électrophone et donc le fait d'avoir les cassettes me permettrait d'enregistrer les disques avec l'appareil et donc c'est pour moi c'est lié à ça quoi c'est
alors comment est-ce qu'on parlait de Jacques Thibault chez vous par exemple cette anecdote sur Berlin comment elle vous était transmise
vous savez moi j'ai vécu avec ma mère me racontait J'ai vécu avec le récit de tous ces musiciens, qu'évidemment moi je n'ai pas connu puisque je suis né 10 ans plus tard et lui il est mort en 53 dans un accident d'avion. Mais on me racontait comment il était. On me racontait surtout les répétitions entre Cortot, Thibault et Casals, avec une forme avec des choses très joyeuses où il s'arrêtait, où Thibault disait est-ce qu'on peut refaire ce passage parce que je l'aime tellement, où Cortot était avec chacun leur personnalité, où Casals était beaucoup plus tourmenté. On me racontait ces répétitions, mais moi j'ai été élevé avec le récit de l'Hypatie, salle Cortot, enfin à l'école normale devant Cortot, Cortot se levant disant bon bah maintenant quand je vous entends je n'ai plus qu'une chose à faire, il se lève et il applaudit. Le récit de ma mère me racontait qu'elle avait assisté à un concert de l'Hypatie justement et où il y avait Schnabel et où Schnabel était monté, je crois que c'était en Suisse, et il y avait tellement de monde que on avait ouvert les portes de l'église et il disait il faudrait vraiment une beaucoup plus grande salle, enfin des choses qui étaient des transmissions comme ça qui étaient voyez sur des choses.
Et dans ce panthéon il y a Fritz Kreisler et Franz Rupp. Thank you. Le premier mouvement, l'Allegro, de la sonate pour violon et piano numéro 5 de Beethoven. On entend la Fritz Kreisler et Franz Rupp. Vous nous parliez de violon de votre arrière-grand-père juste précédemment. Est-ce que la pratique du violon s'est transmise dans la famille? Comment?
Non. Ma fille Suzanne, qui a 7 ans, fait du violon. Et
mais c'est par votre mère, hein, c'est ça que vous êtes.
Ouais, c'est que maman était qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais était la petite fille de Thibaut. Ouais. Elle faisait pas de musique, mais ses frères, les frères de Jacques Thibault faisaient tous de la musique. On dirait que les générations, ils avaient tout pris, si j'ose dire. Mes parents ne faisaient pas de musique. Moi, j'ai eu envie de faire de la musique, mais j'ai été foudroyé par le théâtre, si j'ose dire. Ça a été assez tôt, pas à 12 ans. Enfin,
mais vous avez joué d'un instrument tout de même?
J'ai joué du piano. Je reprends un peu de piano, mais je suis archi débutant. Je ne suis pas du tout musicien. Enfin, j'ai une passion pour la musique. Mais alors peut-être aussi que ça aurait été, comme je suis très très maladroit de mes mains, que j'étais un enfant très maladroit et assez timide et surtout très maladroit, que je cassais presque un verre par jour. Enfin bon, donc il a été dit qu'il ne fallait pas que je fasse d'instrument.
Mais peur que vous le cassiez.
Non, mais c'est vrai que j'ai une vraie maladresse, donc j'ai toujours eu. Je pense que déjà il aurait fallu. Pour revenir à Kreisler, j'ai été opéré des amygdales à 7 ans. J'étais seul avec mes parents à ce moment-là, et il y avait ce disque. Il y avait d'autres disques, il y avait des disques de Reggiani, des Beatles, etc. Mais il y avait ce disque qui était en gris là comme ça, et mon père le mettait, ce disque, et j'avais été absolument ébloui. Et j'ai eu le droit, puisque j'étais bichonné, puisque pendant une semaine j'étais vraiment, ils étaient aux petits soins avec moi. Ma sœur était pas là, donc ils s'occupaient de moi. Et j'avais le droit d'écouter toutes les musiques que je voulais. Et cette sonate, le printemps, a été vraiment, ça m'émeut, ça me fiche la chair de poule à chaque fois que j'entends, et surtout dans cette interprétation-là que je trouve d'une liberté absolument incroyable. Voilà, donc c'est très émouvant. C'est une musique qui me constitue. Je ne sais pas pourquoi. Je peux pas dire pourquoi.
Clé de circonstance avec ce printemps. La quatrième ballade pour piano de Frédéric Chopin, Yves Henry est au piano.
France Musique,
Priscille Lafitte, Musique et moi.
Nicolas Vaude, le comédien Nicolas Vaude, est l'invité de Musique et moi ce matin. Vous avez fait le choix spécifiquement de cette interprétation-ci d'Yves Henry. Qu'est-ce qui vous a amené à cet enregistrement ?
Mais je l'ai découvert récemment et j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a énormément de pudeur et de retenue et de quelque chose, des choses qu'on n'entend pas. J'aime énormément le son qu'il a. Je suis venu à Chopin par les ballades de Chopin.
Ouais. Voilà. Et ça figurait aussi dans votre discothèque familiale.
Oui, il y avait les ballades par Samson François. Il y avait un disque 33 tours. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Chopin. C'est par les ballades et le premier concerto. Mais j'avais très envie de faire entendre cette interprétation que je trouve, c'est un grand interprète de Schumann. Il avait eu le prix Schumann. J'avais entendu une fois sur France Musique la retransmission du concerto de Schumann à son épreuve à la finale. D'ailleurs, à chaque fois que je le crois, je lui dis, mais j'aimerais bien que ce disque du concerto de Schumann ressorte pour qu'on l'entende, parce que ça m'avait vraiment marqué beaucoup. Et j'avais très envie de l'écouter, de faire entendre cette interprétation. Ouais. Que je trouve très très belle.
Alors qu'est-ce qui se transmet dans votre famille au niveau musical ? On a compris que l'art du violon n'a pas forcément été perpétué, sauf auprès de votre fille.
Oui.
Est-ce que je crois qu'un des violons de Jacques Thibault a été perdu dans l'accident d'avion ?
En fait, son violon qui était le Bayo a été donc malheureusement a disparu dans l'accident.
Et est-ce qu'une discothèque, est-ce que des disques ont été ont été transmis d'une génération à l'autre.
Oui, c'est-à-dire que moi j'ai tous les disques, j'ai même des enregistrements que personne n'a. Enfin, j'ai un concerto de Brahms à la fin de sa vie capté. J'ai des choses comme ça. Évidemment, moi j'ai tous ces enregistrements et je les ai beaucoup écoutés. On me les a fait écouter,
sous
on me les a fait
forme
entendre.
Vous les avez ?
Oh, je les ai en 78 tours, en 33 tours. Je suis à l'affût de beaucoup d'interprètes, pas seulement de lui. Mmh. C'est-à-dire que vraiment, d'ailleurs, si j'avais fait un instrument, je pense que j'aurais plutôt fait du piano. J'ai trois enfants qui sont la grande joie de ma vie et j'ai donné à ma fille. Ma deuxième fille a fait du piano. Elle me remercie encore d'ailleurs de faire du piano, Clara.
Alors on va entendre le trio à l'archiduc de Beethoven. Nous parlions un tout petit peu plus tôt de l'art du trio, que les anecdotes que vous ont transmis vos parents au sujet de Jacques Thibault, de comment se faisaient les interactions avec Alfred Cortot, Pablo Casals. Mais c'est pas cette version-ci que vous voulez entendre. Vous voulez entendre celle de David Grimmel avec Anne Gastinel et Philippe Cassard.
Thank you.
Le mouvement final du trio à l'Archiduc de Beethoven, donc David Grimal, Anne Gastinel et Philippe Cassar. Est-ce que vous êtes sensible aux interactions entre musiciens d'un trio comme ça, Nicolas Vaude? Est-ce que ça vous parle en tant que comédien?
Je vais même vous avouer quelque chose. Je pense que c'est les trios, cette formation de musique qui m'a un peu donné le goût du théâtre et l'envie. D'abord, merci à eux et à cette interprétation pleine de fantaisie et de musicalité à ces trois interprètes.
Mais les ruptures, par exemple, chez
les ruptures, voilà. C'est-à-dire que c'est le théâtre. Il y a une interaction évidemment entre les acteurs et le public, mais je sais pas pourquoi. Pour moi, à chaque fois que j'entends un trio de Schubert ou de Schumann ou de Beethoven je pense à du théâtre.
C'est-à-dire que vous entendez, entendez des répliques.
J'entends des répliques. Ça a toujours été comme ça. Évidemment, ça m'émeut. C'est une musique qui m'émeut. Mais il y a aussi, si vous voulez, des ombres, des choses, des zones d'ombre. Pour moi, c'est un petit théâtre. Je n'aime rien tant que le petit théâtre. Quand je dis petit théâtre, c'est que il y a beaucoup de grands textes, Racine, qui étaient joués dans des petits endroits. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai aimé infiniment les pièces de Zeller, qui sont des pièces qui peuvent être jouées dans des petits endroits. J'aime jouer dans des petits endroits où ça sonne et on entend. C'est quelque chose de très important. D'ailleurs, il paraît que Beethoven, c'était dans les petites salles. Il le jouait dans des petites salles.
Parce qu'au niveau de la projection de la voix aussi, j'imagine que c'est différent.
Au niveau de la projection de la voix, c'est complètement différent. C'est-à-dire que, évidemment, c'est charmant d'aller jouer en plein air devant dans des châteaux. Ça peut être magique, ça peut être évidemment. Hein, c'est magique, c'est un soir, etc. C'est superbe. Mais moi, j'aime particulièrement jouer dans un théâtre et particulièrement dans un théâtre où il y a une acoustique formidable et où ça résonne bien et où
comment on teste
tout.
L'acoustique d'un théâtre quand on arrive dans une
délicat.
Salle vide,
c'est très délicat.
Ça peut être très amusant. Vous chantez?
J'ai joué avec Marielle, avec Jean-Pierre Marielle en tournée souvent. Il arrivait, il faisait ma pupe, il faisait les ma pupe comme ça me faisait toujours rire, mais il disait bonne acoustique. Voilà. C'est des choses, c'est très délicat parce que l'acoustique n'est pas la même, j'imagine, pour les musiciens et pour les acteurs. C'est une question très très. Une représentation peut vraiment complètement changer du tout au tout en fonction de la salle, hein, vraiment.
Merci Nicolas Vaude de nous faire entendre ces préludes en deux mineurs.
Et alors, je voulais absolument qu'on entende un disque d'Olivier Beaumont que je considère comme... Enfin, pour moi, c'est un immense musicien, et pas seulement musicien d'ailleurs, c'est un pédagogue. Et il vient d'écrire un livre merveilleux qui s'appelle « Tombeau du jeune monsieur de Saint-Marc » chez Arléa. Et c'est vraiment très, très, très étonnant. C'est un livre en miroir qui raconte l'histoire de Saint-Marc. Pour en venir à cette musique, il me fait un cadeau inestimable parce que et c'est très délicat d'ailleurs parce que c'est une musique, cette musique là, cette petite pièce là qu'on vient d'entendre est une pièce qui me transporte, qui me depuis toujours quand j'avais commencé à faire un peu de piano, je travaillais modestement ces petites pièces de Bach là, et celle-là à chaque fois ma prof me la jouait, je veux dire vous pouvez recommencer etc, parce que je trouve cette musique absolument géniale.
Puis là, cet instrument, ce clavecin,
alors ce clavecin,
ça sonne bien.
J'ai découvert le clavecin par Olivier Beaumont, et c'est tout un monde qui s'est ouvert à moi véritablement. Mais quand je dis un monde de mystères, plein d'ombres, plein de choses de magique. Pour moi, c'est de la sorcellerie. J'ai trouvé que c'était de la sorcellerie. J'étais mais hypnotisé la première fois que je l'ai entendu, que je l'ai vu jouer, parce que il m'a vraiment fait découvrir ce monde du baroque en fait. Le travail avec lui est toujours passionnant.
Sonorité que ce Lautenwerk, ce clavecin luth sous les doigts d'Olivier Beaumont. Expliquez-moi comment vous avez rencontré Olivier Beaumont et comment est-ce que vous êtes été amené à travailler ensemble, je crois.
Bon, on s'est rencontré par un soir quand je jouais à la Cerisaie avec Isabelle Carré, Jean-Marc Luisada, que j'aime profondément comme musicien aussi, et Olivier Beaumont sont venus me voir et on a parlé. Et puis les années, on est devenus très très amis. Et puis, on a travaillé ensemble. C'est-à-dire qu'un jour, Olivier m'a proposé de faire ma première mise en scène, qui était le mariage forcé de Molière, avec la musique de Lully et les danses. Et on a fait ça ensemble pour des festivals de musique baroque avec Nicolas Marié qui vient d'avoir le César du meilleur acteur dans un second rôle, qui était absolument génial dans Sganarelle. Il y avait Dominique Daguier, il y avait des acteurs. Vraiment, ça a été une grande joie. Et puis, on s'est tellement entendu à ce moment-là. Il y avait donc un orchestre baroque, un petit orchestre de baroque, avec Christine Plubeau à la viole de gambe. C'était magnifique. Et puis, le succès, on a eu envie de retravailler ensemble avec Nicolas Marié et Olivier Beaumont. Et Olivier a eu cette idée de faire Le Neveu de Rameau, dont on a fait une adaptation à trois.
Avec lui sur scène aussi, je crois.
Avec lui sur scène, on est parti de l'édition de Goethe, où il est écrit à un moment donné que les deux protagonistes, lui et moi, donc le neveu et le philosophe, arrivent au café de la Régence où il y a un clavecin. Et moi j'ai dit, oh, clavecin, 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 claveciniste, clavecin, étrange quoi. Et on a beaucoup axé, on a équilibré, parce que d'habitude c'est souvent le neveu qui parle beaucoup, beaucoup. Et on a tenu absolument à équilibrer le dialogue et on est parti sur un axe avec la mise en scène de Jean-Pierre Rumeau. Jean-Pierre Rumeau a tenu absolument à ce qu'on aille sur un axe de musicien raté un peu, parce que c'est un musicien raté.
Donc on a neveu de Jean-Philippe Rameau.
Voilà, donc on a beaucoup été là-dessus sur le personnage qui donc est un raté, qui est évidemment un bouffon, un peu clochard à 16 heures, et avec donc des musiques choisies soigneusement par Olivier. Mais ces musiques, ainsi que d'ailleurs tous les mots que nous disons dans cette adaptation, sont dans le neveu, dans le texte de Diderot, qui est un chef-d'œuvre absolu pour moi, évidemment. Un texte de questionnement qui n'affirme rien et qui dans l'esprit des Lumières. Mais c'est toujours important pour un personnage, si vous voulez, de partir de, comment dire, de l'intimité. De savoir... moi, j'essaie toujours de me dire quelque chose d'assez intime qui est en lien avec le personnage, en lien avec moi-même. Parce que je ne peux partir que de moi, parce que l'acteur est instrument et instrumentiste et il part de lui aussi. Et cette idée de on a creusé le fait que ça soit un musicien raté. Évidemment, c'était très, ça a été tout d'un coup ça a ouvert des portes. Vous voyez, les portes s'ouvrent. Mais bon, c'est un travail inépuisable. Et comme tous les grands textes, on peut les reprendre instablement et découvrir plein de choses. On ne sait rien en fait.
Thank you.
Nous parlions de Jean-Philippe Rameau un peu plus tôt. Voici une pièce de Rameau, La Dauphine, sous les doigts de Clément Lefebvre, un tout jeune pianiste, l'un des favoris parmi les finalistes du concours L'Antibot, tiens, en 2019. Et il est reparti avec un sixième prix. Mais vous avez suivi ce concours comme d'autres?
C'est-à-dire
vous êtes attentif?
Fait, j'ai été assez fan de ce garçon. J'ai eu un coup de cœur parce que quand je l'ai vu arriver, j'avais l'impression qu'il ne passait pas le concours. J'avais l'impression qu'il venait pour jouer de la musique. Et j'ai vu arriver ce garçon et j'avais l'impression que vraiment, et ça m'a beaucoup interloqué, j'avais l'impression que qu'il venait vraiment, c'était une occasion de faire de la musique. L'apparence assez décontractée, assez dégagée. Il était...
Vous vous êtes reconnu un peu?
Sale corte. Oui. C'est... bonne question. Très bonne question. Oui. Je me suis reconnu dans ce désir, si vous voulez, de faire quelque chose, de jouer. Et le public, moi, j'ai les concours, par exemple, quand j'ai passé les concours, j'étais assez, totalement décontracté, totalement, parce que, et pourtant je suis assez traqueur, parce que je me suis toujours dit que de toute façon mon désir de faire du théâtre et de faire ce métier était de toute façon beaucoup plus fort que tout jugement. C'est idiot. Mais ça peut paraître prétentieux et en même temps je suis très critique.
Vous nous avez dit qu'Olivier Beaumont vous a introduit à la musique de Rameau, on peut dire ça? Ou est-ce qu'il y a des connexions entre Olivier Beaumont, le théâtre, Rameau?
Olivier Beaumont, surtout Couperin d'ailleurs, et surtout c'est grâce à lui que j'ai rencontré Florian Zeller, parce que Olivier en deux mots avait eu une idée absolument géniale qui était de demander à des compositeurs d'aujourd'hui, donc Guillaume Connaisson, Jérémy Rohrer, Carole Beffa, de composer sur instruments anciens. Et il intercalait, en fait, Florian avait écrit des petites scènes qui s'appelaient La Galante, les barricades mystérieuses, etc., qui étaient des petites pièces empruntées, dont les titres sont empruntés à Couperin. Et alors, il y avait une scène, une musique, une scène, une musique, une scène, une musique. Et puis, Florian était venu me voir dans Le Menteur, deux fois, dans Le Menteur de Corneille, mis en scène par Briançon. Et c'est grâce à Olivier que j'ai rencontré Florian, puisque c'est Olivier qui m'a présenté Florian. Et Florian a eu envie d'écrire une pièce qui s'appelle Le Manège, que c'était donc en principe sa première pièce. Et donc la pièce était programmée en janvier au Théâtre Montparnasse, chez Myriam Le Colombie, qui vient de partir et que j'aimais beaucoup. Et quand j'ai reçu ce texte qui était une commande de Champs-sur-Marne, du festival de Champs-sur-Marne que dirigeait à ce moment-là Olivier Beaumont, j'ai été... Mais... saisi comme rarement j'ai été saisi avec un texte, mais rarement. Et je lui ai dit, si on le lit demain dans un théâtre, ça sera programmé. Alors il m'a dit, ah tu crois vraiment, etc. Et en fait c'est devenu sa première pièce, alors que c'était pas, est devenu la première pièce de Florian Zeller jouée. Olivier a pensé à Clément Siboni, à Chloé Lambert. On a travaillé ensemble tous les trois, tous les quatre avec Florian, puis avec Annick Blancheteau, etc. Et ça a été un grand succès. Puis après Le Manège a été aussi a très bien marché. Mais j'ai eu le coup de foudre, si vous voulez, pour ce texte et qui m'a soulevé, en fait.
Thank you.
Enregistrement en 1956 à Montreux. Clara Askill au piano, accompagnée par l'orchestre du Goerzenich de Cologne, dirigé par Otto Klemperer. Et je vous voyais complètement vibrer, Nicolas Vaud, à l'écoute.
D'abord, merci d'avoir retrouvé cet enregistrement que je trouve, que j'ai jamais retrouvé et qui m'avait tellement marqué quand je l'ai entendu.
Du 27e concerto de Mozart.
Voilà, du 27e concerto de Mozart, notamment ce mouvement que je trouve absolument génial et l'association de Klemperer, qui est un chef vraiment que j'aime particulièrement. Dans Mozart, dans tout, mais dans Mozart beaucoup, dans les opéras. Et Clara Askill, c'est extraordinaire. C'est vraiment... public, voilà, en public en plus.
Alors ça m'intéresse d'écouter Mozart avec vous, parce que surtout dans nos murs ici à France Musique. Vous êtes un peu notre petit Mozart. La voix du prodige, du compositeur, dans une série sur France Musique à podcaster. C'est surtout pour les enfants, mais c'est aussi pour les plus grands. Le journal intime de Mozart, ça s'appelle, écrit par Marianne Vourche, réalisé par Sophie Pichon. Quel cheminement est-ce que vous, vous avez fait, Nicolas Vaud, pour trouver en vous la voix de cet enfant Mozart?
Ben, en fait, vous savez, je connais bien Mozart, c'est-à-dire que je connais bon, sa musique, mais je connais bien les écrits de Mozart. J'aime beaucoup les lettres, beaucoup de choses, et ça fait des années et des années que je lis beaucoup de choses de Mozart. Donc, quand Marianne Vourche m'a proposé de j'avais l'impression d'être, c'était pas, pour moi c'était un peu évident. Alors son texte, je le trouve très, très beau, très clair, et je trouve la réalisation, en plus de Sophie Pichon, absolument merveilleuse. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être, mais vraiment, hein, on a l'impression d'être dans un film. Enfin, je trouve qu'elles ont fait un travail toutes les deux.
Quelles inflexions, quelle personnalité est-ce que vous avez recherché?
J'ai pas recherché une personnalité. Il y a quelque chose chez Mozart qui dans ses écrits, je peux parler de ses écrits puisque hein, dans son qui me touche énormément parce que il ne s'apesantit pas. C'est-à-dire que et en même temps il y a énormément de pudeur et les choses sont toujours dites elles sont presque dites quatre lignes après ou deux pages après. C'est très intéressant pour un acteur de lire la correspondance de Mozart et de lire Mozart et de s'apercevoir aussi que c'était un travailleur. De toute façon, moi, je ne crois qu'au travail, hein, de toute façon, et c'était quelqu'un qui travaillait, et ça, c'est voilà. Mais c'est très très intéressant et très beau, très émouvant, ces écrits.
Papa décide qu'il est temps de rejoindre l'Angleterre. Là-bas, on parle de moi comme de la merveille de la nature. Nous avons pris la diligence jusqu'à Calais, où nous allons traverser la Manche. Nous n'avons jamais vu la mer, et Nannerl est tout étonné de la voir se retirer à nouveau grossir. Dès notre arrivée à Londres, nous rencontrons le roi George III et la reine Charlotte au palais Saint-James. Le roi et la reine d'Angleterre aiment la musique et nous en sommes bien heureux. La reine a une jolie voix et je l'accompagne au clavecin. Le roi, lui, reste à mes côtés pour nous écouter et me tourner les pages. Nous sommes aussi invités à nous promener dans les jardins du palais. Les dames portent de grands chapeaux comme nous n'en avons jamais vu à Salzbourg. Nannerl et maman ont voulu en acheter pour être à la mode de Londres, bien que papa n'aime pas davantage les londoniennes que les parisiennes. Que la nature est belle ici. J'aime regarder les barques glisser sur la Tamise, surtout quand la lune vient s'y baigner. Les marronniers en fleurs sont si grands, si forts. Les jardins sont vraiment très différents de ceux de Paris ou de Salzbourg. Ils sont plus libres. Sans doute les jardiniers sont-ils moins sévères. Je voudrais pouvoir murmurer la nature dans ma musique. C'est la fin de l'été et nous allons bientôt quitter l'Angleterre. Je suis triste car je vais devoir dire adieu à mon nouvel ami, Jean-Chrétien Bach. Ici, on l'appelle le Bach de Londres. Il est le fils du grand compositeur allemand Jean-Sébastien Bach. Avant de venir à Londres, il a séjourné à Milan, en Italie. Grâce à lui, j'ai découvert l'opéra italien, ses couleurs, ses mélodies, son soleil. Alors je me suis mis à écrire une nouvelle musique en pensant à tout ce que Jean Chrétien m'enseigne. Je crois que les deux symphonies que j'ai composées ici ont cette nouvelle lumière. « papa dit partout que son fils sait à 8 ans tout ce qu'on peut attendre d'un homme de 40. Mais il est aussi très inquiet. Il dit que je suis très malade. Nous sommes partis depuis 2 ans et tous ces concerts m'ont bien fatigué. Papa veut m'enlever la plume des mains quand je compose, mais je pleure aussitôt. La musique me fait vivre, je ne veux pas mourir. Nous rentrons à la maison.
Oh!
L'extrait d'une production de Don Giovanni au Théâtre des Champs-Élysées, c'était en 2016 que vous avez vu. C'était Jérémy Rohrer à la tête du Cercle de l'Harmonie, Jean-Sébastien Bou dans le rôle de Don Giovanni, Robert Glidau dans le rôle de Leporello et Julie Bouliane chantait Donna Elvira. Vous arrive-t-il d'avoir une envie d'opéra lorsque vous jouez un texte? J'y pensais là en mettant côte à côte le podcast que vous avez enregistré sur Mozart et puis l'opéra Don Giovanni. Est-ce qu'il y a une musicalité du texte sur laquelle vous vous appuyez ou vous vous en méfiez? Comment est-ce que vous êtes par rapport à ça?
La langue française est une langue qui est moins musicale que l'italien ou l'allemand ou l'anglais, en apparence. C'est-à-dire que la musicalité, elle vient de la langue française, vient dans les silences, les virgules, beaucoup de temps, voyez. C'est une langue très douce qui peut être très musicale si on fait ce travail de sur la langue et sur les silences, etc. Je dirais que j'essaie toujours de trouver l'art de l'acteur est très il y a des correspondances avec la musique, mais pas tant que ça. Enfin, il y a aussi un endroit où pas du tout. C'est-à-dire que l'acteur est en même temps danseur, en même temps, ça participe du corps, du travail du corps, de la voix. C'est très, très, très délicat.
ça demande. Est-ce que vous chantez, vous, Nicolas Vaud?
Moi, j'ai chanté à la Rue Blanche. J'ai pris des cours de chant. Ouais, j'adorais. Ouais. J'adorais ça. Mais pour répondre à votre question, c'est toujours il y a la grande difficulté, si vous voulez, c'est que a priori comme ça, on est plus ému par une musique ou par un spectacle de ballet ou par une danse, par une chorégraphie, que comment dire, pour arriver à émouvoir vraiment les gens avec une pièce de théâtre, il faut vraiment travailler énormément. Il faut vraiment que ça soit très charpenté, que raconter une histoire. Et c'est un art qui nécessite un travail fou. Et beaucoup de joie et beaucoup de jeu. Je dirais que la correspondance entre la musicalité et la correspondance pour le théâtre, ce serait le jeu, le sens du jeu. On pourrait dire tel interprète me paraît très musicien. Je dirais que tel acteur, tel jeune acteur, car j'ai le souci de transmettre en ce moment. Je vais faire un stage sur Tchekhov et je dirais que c'est le sens du jeu qui est le plus important. Mais c'est un art. C'est l'art de l'éphémère en même temps, vous voyez ce que je veux dire, de l'éphémère et de qui peut être inoubliable, mais c'est un art particulier qui demande beaucoup de choses qui participent de la musique et de la danse, de plein de choses très particulières. Alors, avec une histoire,
une rythmique aussi,
une vraie rythmique.
Vous êtes venu avec un texte, j'aimerais que
oui,
si vous voulez bien,
oui,
de Jules Laforgue. Qu'on alors termine
ça,
avec
ça
ce poème.
Excuse macabre à Hamlet, prince de Danemark. Margarita, ma bien-aimée, or donc, voici ton crâne. Quel poli. L'on dirait de l'ivoire. Je le savonne assez chaque jour, Dieu merci, et me permet d'ailleurs fort rarement d'y boire. Te voilà. Dans ces deux trous, deux beaux yeux jadis, miroir de ton âme enrhumée, rêvaient. Las, où sont tes belles tresses d'or, dit Margarita, ma bien-aimée. Margarita, ma bien-aimée, ainsi pour moi qui crois qu'ici-bas tout finit au cimetière, un vieux crâne et le peu qui reste encore de toi. N'est-ce pas le sort de la nature entière? Les Hugo, les Césars, un peu de cendre au vent, soleil dont la voûte est semée, monde, tout doit un jour s'abîmer au néant, Margarita, ma bien-aimée. Margarita, ma bien-aimée. Et puis enfin, contemple le cosmos, l'humanité. Qu'est-elle dans cet océan plein de vertiges? Un essaim d'atomes emportés dans la course éternelle. Et puisqu'en fin de compte, il n'est rien ici-bas qui ne soit vanité, fumée, ton crâne. Je puis bien le vendre, n'est-ce pas, Margarita, ma bien-aimée.
Merci Nicolas Vaud d'être venu avec cette rareté, cette symphonie de Rigel en do majeur par les talents lyriques emmenés par Christophe Rousset. Un grand merci à vous d'être venu ce matin. Un grand merci à Maïwenn Le Geurant à la prise de son, Cyrielle Weber à la réalisation. Merci à Hortense Leblouc et à Marie Ferdinand qui m'ont aidé à préparer cette émission et qui l'ont mise en ligne. Passez un très bon dimanche sur France Musique et à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.